Ouest de la RDC.
L'ancien président du pays est à Goma depuis dimanche dernier, ville sous contrôle du MNA.
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Pour présenter son livre Proust, roman familial, paru en 2023 aux éditions Robert Laffont, Laure Murat s'exprimait ainsi. Toute mon adolescence, j'étais persuadée que les personnages de La recherche du temps perdu étaient des cousins que je n'avais pas encore rencontrés. Car le monde révolu où j'ai grandi était encore celui de Proust, qui avait connu mes arrière-grands-parents, dont les noms figurent dans son roman. Dans ce récit à la fois autobiographique et littéraire, l'auteur analyse le rapport étroit entre ses propres souvenirs d'enfance au sein de l'aristocratie française et le monde décrit par Proust. Ce milieu avec lequel elle a rompu, mais qui a forgé sa personnalité et qui a laissé en elle des traces parfois insoupçonnées. Les pages que nous allons lire décrivent avec lucidité la mentalité et l'art de vivre de la grande noblesse française, telle que Laure Murat les a connues dans les années 1970.
Il a fallu des années pour comprendre une chose très simple. Elle m'a sauté aux yeux lorsqu'un soir, regardant un épisode de Downton Abbey, j'ai découvert la scène où le maître d'hôtel sort un mètre devant la table dressée pour le dîner, afin de mesurer la distance entre la fourchette et le couteau et de s'assurer que l'écart entre les couverts est le même pour chaque convive. Ce geste dérisoire, accompli avec une solennité sacramentelle, a suscité en moi une curiosité dont, sur le moment, je comprenais mal l'intensité, et encore moins le motif. Pourquoi, allongé devant un écran de télévision à Los Angeles où j'habite, à 9000 km du vieux continent et si loin de la belle époque, m'arrêter sur un détail aussi anodin, presque subliminal, sans aucune valeur dans l'intrigue? Je sentais confusément que se manifestait, à travers ce mesurage absurde et appliqué, un signe lointain venu du passé, de l'enfance. Mais quoi ? Ce geste ne m'évoquait rien de précis, aucun souvenir particulier. Dans sa simplicité et sa modicité, il a pourtant fini par faire remonter tout un monde des confins de ma mémoire. Une figure archaïque, en me montrant de la façon la plus élémentaire que le milieu où j'avais grandi dépendait tout entier et littéralement de son image, son être de surface. L'aristocratie est un monde de pure forme. Plus je creusais, plus je comprenais que cette scène minuscule métaphorisait le principe sur lequel toute une caste se tenait en équilibre, à la manière d'une pyramide qui repose sur sa pointe. Ce n'était pas une révélation, ni même une découverte pour moi, plutôt la claire énonciation d'un savoir enfoui, informulé. Ce que cette scène disait, c'était par extension la puissance muette du code. Les usages de l'aristocratie relèvent pour l'essentiel, comme dans tout milieu, de codes tacites. Leur spécificité est de se prévaloir du temps, ce temps long de l'histoire qui trace, enregistre, accumule un savoir immémorial sur l'art de la performance sociale. Prétendre à l'antériorité, ce n'est pas seulement se passer de ratification, mais s'assurer la maîtrise du récit. De cette grande machinerie de la sociabilité, aucun rouage ne doit se voir. Personne ne remarque l'équidistance des couverts, aussi transparente que l'existence du maître d'hôtel travaillant dans les coulisses. Justement, l'invisibilité fonde l'illusion d'un monde parfait, miracle perpétuel et désincarné. Elle en est la condition silencieuse, la clé de voûte. Ce à quoi je m'accrochais, c'était la jouissance d'une esthétique imperceptible à l'œil nu. Ce que je reconnaissais dans ce décor et cette attention aux choses inutiles, c'était, que je le veuille ou non, une part de ce que je suis. De mon enfance, dont j'ai peu de souvenirs nets, j'ai surtout gardé des sensations. Et celle qui domine toutes les autres est ce sentiment de l'implicite, de l'indiscernable, d'un impérieux silence entendu. C'est une atmosphère où ce qui ne se dit pas et ce qui ne se voit pas compte beaucoup plus que la parole ou le geste, toujours mesuré, compté, théâtralisé. Les règles élémentaires de la politesse s'assimilent vite. Ne mets pas les coudes sur la table. Dis bonjour à la dame. Ne marche pas les mains dans les poches. Remercie le monsieur. Elles sont les mêmes partout. C'est tout le reste qu'on appelle parfois savoir-vivre, qui est plus long et subtil à saisir. Il n'y a pas de manuel, pas d'instruction, ni même de secret. Tout repose sur l'observation de scènes si composées qu'elles auront l'air naturelles, et dont seul compte la réussite formelle, l'effet. Dès le plus jeune âge, j'ai pris l'habitude, à la fois inconsciente et suggérée, de détecter et d'interpréter les indices tacites qui forment l'équilibre des situations en société. Personne ne me les a appris ni expliqués, même si tout le monde s'attendait à ce que je les repère et les enregistre. Demande-t-on aux animaux comment ils ont assimilé les lois de la jungle ? Il s'agit de sentir comment se crée ou se défait une ambiance, de pénétrer l'art de relancer une conversation ou d'en dévier le sujet d'un mot. Cet entraînement muet, qui consiste à écouter et regarder, à lire les visages et humer les climats, à imiter et répéter sans consigne, a forgé en moi une conviction profonde qui est peut-être au fondement de n'importe quelle éducation. Ce qui se transmet vraiment ne s'enseigne pas. Et cela peut être superlativement dans l'aristocratie. Tout se joue entre les lignes, à capter, surprendre, intercepter les signes subliminaux de l'effacement, dans une vie où tout effort doit être radié, toute passion dissimulée, toute souffrance tue, selon une orthopédie mentale aux règles non écrites. On ne parle jamais de soi, on ne fait pas de vagues, on évite les sujets qui fâchent, car c'est assommant. Et il est impensable de montrer quelque émotion en public. La joie et la peine, l'excitation et la douleur, l'enthousiasme et la mélancolie sont affaires de classe. « On ne pleure pas comme une domestique », répétait mon arrière-grand-mère, que la haine de l'effusion avait poussé à donner un bal à la mort d'un de ses fils, engagé volontaire, tombé pour la France en 1916, à l'aube de son 20e anniversaire. Caricatural, ce sinistre exemple pourrait presque avoir valeur de principe dans la nécessité à convertir tout mouvement sensible jusqu'à la plus intime catastrophe en exercice de style. Un monde où tout se tient et où tout le monde se tient. Tenir. Tenir son rang, c'est le verbe étalon, qui s'applique à la langue, à laquelle on demande d'abord de la tenue, comme on est censé savoir tenir son cheval. Se tenir. Le regard fixé sur l'horizon immuable des rituels a une vertu majeure, s'abstenir de penser. Mal se tenir, au propre comme au figuré, confine au sacrilège. Combien de fois n'ai-je pas obéi à ce rappel à l'ordre, traduit par un regard noir qui se passait de commentaires. « Tiens-toi !» Comprendre, « Tiens-toi droite et reste à ta place. » Comme une table bien dressée où l'on évitera de mettre les coudes, à côté de couverts équidistants. Cette technique du corps et du maintien postural exige un mot couvert un peu plus que de la tenue, de la retenue, voire de la rétention, jusqu'à de la réticence à se mêler au monde extérieur. C'est une mécanique des comportements dont la pratique est fondée sur le refoulement.
Mon père est né en 1925, ma mère en 1939. Un peu tard pour avoir connu le grand monde tel que Proust l'a vécu, mais assez tôt pour en avoir une mémoire transmise, rapportée. Ils se rencontrèrent en janvier 1960 dans une soirée mondaine. 5 mois plus tard, ils étaient mariés. Marcel Proust aurait très bien pu assister à leur mariage, il aurait eu 88 ans. En 1960, les alliances dans l'aristocratie continuaient de faire la une des journaux que l'on n'appelait pas encore « people ». Le mariage de mes parents, célébrant l'union de la fille aînée du duc de Luynes, descendant du favori de Louis XIII et du prince Napoléon Murat, arrière-arrière-petit-neveu de l'empereur, eut droit à quelques gros titres. Tous les ingrédients étaient réunis. La jeune fille de bonne famille épousait, au château de Luynes, un prince charmant, par ailleurs regardé comme un original pour avoir produit les premiers films de Louis Malle. Tous les articles que j'ai pu trouver décrivent le même chromo, la féerie d'une cérémonie à la fois familiale et populaire, la présence du village entier et l'énumération des invités admis au déjeuner, dont les noms Montesquieu, Brissac, La Rochefoucauld, Montebello, etc., pourraient figurer dans la recherche. Mais le plus frappant est l'insistance sur un point, toute prestigieuse que fut l'union de deux grands noms de l'histoire de France. Elle n'en était pas moins marquée dans les mentalités par le décalage entre la noblesse d'Ancien Régime incarnant le passé féodal et la noblesse d'Empire de plus fraîche extraction. L'héritier des hommes de guerre de la vieille France a donné sa fille aux descendants du petit caporal, titre l'hebdomadaire noir et blanc, qui ironise sur l'absence de fleurs de lys à l'église, emblème de la monarchie, prétendument pour ne pas froisser les bonapartistes. Ailleurs, c'est l'absence remarquée du comte et de la comtesse de Paris, prétendant au trône de France, qui interroge. Ont-ils refusé de cautionner cette alliance avec un descendant de Napoléon ? Sans fondement dans la réalité, le curé était allergique au lys et les membres de la famille royale étaient liés aux Luynes depuis le XVIIe siècle, ses commentaires disent la prégnance de la hiérarchie sociale dans les esprits. Un journaliste ne prend-il pas même soin de préciser qu'au déjeuner, réunissant une centaine de privilégiés, le seul roturier, sic, est Louis Malle. C'est pour ce type de remarque que je retourne à la futilité révélatrice de ces archives. Pour ressaisir une époque qui éprouvait encore le besoin, dans la deuxième moitié du XXe siècle, de distinguer les deux noblesses et l'aristocratie de la roture, quand la nôtre n'aurait eu Dieu que pour le cinéaste, au détriment de tous les invités titrés. Indubitable produit de leur milieu, mes parents différaient de ces 1001 personnages proustiens du Faubourg Saint-Germain par un trait essentiel. Ils lisaient. Je veux dire, ils lisaient vraiment. L'une des images les plus touchantes que je garde de mon père, c'est de le voir traverser le jardin avec une pile de livres qu'il protégeait de tout son corps massif, comme s'il s'agissait d'un nourrisson, contre la pluie qui commençait à tomber. Je ne me souviens pas de l'avoir vu un seul jour sans lire. La lecture n'était pas son activité favorite, c'était à peu près sa seule activité. Sur les rayonnages de son bureau, de la philosophie, des présocratiques à Merleau-Ponty, en passant par Marx et Lévi-Strauss, mais surtout de la littérature de tous les temps, française, étrangère, anglo-saxonne en majorité et dans le texte, et un nombre faramineux de volumes de la Pléiade qu'il annotait au bic ou au feutre, ce qui relativise son respect de l'objet, épargné par les gouttes d'eau, mais pas par ses commentaires. Ma mère, elle, avait très peu d'inclination pour la littérature, mis à part pour les trois titres qu'elle citait toujours, les Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel et les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Son goût allait à l'histoire et se traduisait par la lecture presque exclusive d'essais, de correspondances et de souvenirs. Proust lui tombait des mains. On avait droit à chaque fois à ses phrases interminables, son style alambiqué, etc. Mon père connaissait La Recherche par cœur. Elle adorait l'opéra, il n'écoutait que du jazz. Elle se passionnait pour les jardins, il n'aimait que la ville, et répétait à qui voulait l'entendre, faisant sienne une remarque du Voyage au bout de la nuit. « Je hais la guerre parce que ça se passe à la campagne. » Mes parents n'avaient à peu près rien en commun, mais ils n'auraient jamais pu se passer, ni l'un ni l'autre, de la vie de la pensée. Ce qui faisait d'eux des exceptions, dans un univers où la culture, sous la forme d'une érudition superficielle, sert surtout à faire joli dans la conversation. Dans un passage du temps retrouvé sur la démagogie que représenterait un art populaire, Proust écrit « J'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non les ouvriers électriciens. » Proust a raison. Le père d'Adrienne Monnier, facteur, avait lu Joyce, Fargue, Valéry et bien d'autres. La mère de Monique Wittig, femme d'ouvrier, évoque dans sa correspondance avec sa fille ses lectures de Kafka et de Faulkner. Dans Une femme, Annie Ernaux rapporte que sa mère lisait Mauriac, Bernanos et Colette. Mes grands-parents n'avaient ouvert aucun de ces livres, pas plus que l'écrasante majorité de mes oncles et tantes, dont la plupart n'avaient même pas leur baccalauréat. Dans leur exercice de la mondanité, en revanche, mes parents n'auraient pas déparé certaines pages de La Recherche. Mes parents sortaient dans le monde, c'est-à-dire qu'ils respectaient des codes et sacrifiaient à la coutume, dans des soirées plus ou moins ennuyeuses, au décor somptueux, où l'on échangeait anecdotes et bons mots. Ils croyaient en un système social auquel ils se conformaient. Ils ne l'ont jamais remis en cause. Les enfants n'étaient pas admis dans ces soirées, sinon exceptionnellement, pour dire bonsoir. Né en 1967, j'occupe la place au milieu dans une fratrie de quatre, entre deux sœurs, nées en 1961 et 1962, et un frère, né en 1972. Lorsqu'elle nous présentait aux invités, ma mère, pointant mes deux sœurs, disait « Voici mes filles ». Puis en montrant mon frère, « Voilà mon fils ». Et quand son doigt me désignait finalement, elle ajoutait sans malveillance et dans un sourire, « Et ça, c'est le numéro 3 ». Je ne lui en tenais aucune rigueur, au contraire. J'aimais bien cette place de singleton. Aujourd'hui, je m'amuse à voir dans ce « ça » psychanalytique, dépourvu de genre, l'origine de mon intérêt pour le troisième sexe, auquel j'ai consacré une thèse. Ma nurse, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 7 ans, m'a prodigué une affection joyeuse et sans limite. Née d'une mère brodeuse et d'un père maraîcher installé en Algérie, mariée jeune à un fournisseur aux armées dont elle divorça, fait rare à l'époque, elle était venue en France à l'âge de 22 ans pour devenir puéricultrice. Elle irradiait d'une joie bienfaisante et d'une tendresse qui me valent de tenir sur mes deux pieds aujourd'hui. Mes deux sœurs avaient la leur, une écossaise charmante et fantasque qui se trompait régulièrement dans l'attribution des vêtements, de sorte que l'aînée portait des jupes trop courtes et la cadette des cardigans trop longs, sans que personne n'y trouve rien à redire. Ma scolarité, qui s'est presque intégralement déroulée à l'Institut de l'Assomption, fut médiocre, jusqu'à un baccalauréat dont la mention résume mon niveau passable. Je détestais l'école où il fallait me traîner tous les matins. Mes bulletins disent tous la même chose. J'étais un cancre agité qui faisait tache d'huile dans la classe, n'écoutait pas et ne fournissait pas d'efforts. Je regrette aujourd'hui cette dissipation idiote et inutile qui a épuisé bien des bonnes volontés. Mais je n'avais qu'une idée, sortir de cette prison catholique et monochrome sans mixité d'aucune sorte, ni de genre, ni de classe, ni de culture. L'appartement où nous habitions se situait dans le 16e arrondissement de Paris, entre l'avenue d'Iéna et l'avenue Marceau, quartier résidentiel d'une torpeur abyssale où il ne se passait rien, comme si la semaine entière n'était qu'un dimanche étiré sans fin.
Était la fille aînée du duc de Luynes, celle qui lui ressemblait, qui avait sa démarche, ses expressions, sa brusquerie. Elle était l'aînée, c'est-à-dire, symboliquement, le garçon. Sauf qu'elle était une fille. Inès, privée du droit d'aînesse. Elle avait une haute conscience de cette place en porte-à-faux, à la fois supérieure et manquée. Née en 1939, comme sa mère était née en 1914 et sa grand-mère en 1870. C'était facile à retenir. La guerre, la mort planent sur la lignée des filles. Sur ma mère en particulier. Mes grands-parents ont eu 10 enfants, dont 7 ont survécu. La naissance de ma mère est encadrée par 2 enfants morts-nés. Je me suis souvent demandé si le fait d'avoir été prise en étau par 2 fantômes était à la source de ses cauchemars. Cauchemar était un mot qu'elle employait souvent. Ma mère, qui a eu 4 enfants dans la douleur, décrivait la grossesse et l'enfantement comme un cauchemar. Chaque fois, une immense fatigue, la nausée, l'anémie, l'épuisement nerveux. « Je ne pouvais pas aller d'ici à là », disait-elle, en désignant la distance d'à peine 2 mètres qui séparait dans sa chambre le fauteuil de son lit. 9 mois d'horreur. « Ma naissance avait été douloureuse, un cauchemar », insistait-elle. Je me présentais à l'envers, il avait fallu me retourner. Encore une fille. La 3e. Ne vous inquiétez pas, madame, le prochain sera un garçon car la lune a changé ce soir, lui aurait dit l'infirmière. Elle m'a raconté l'histoire 100 fois. Et tu vois, c'était vrai, ajoutait-elle dans un sourire, puisque le dernier devait être un garçon. Moi, ce que je voyais surtout, c'est que ma mère, le jour de ma naissance, à en croire les efforts de l'infirmière pour la rassurer, était inquiète. Je n'ai aucun souvenir d'enfance avec ma mère. Nous habitions à Paris dans un appartement sur 3 étages. Au 2e, les enfants et leurs nurses, avec salle de bain et cuisines attenantes. Au 3e, les parents. Au 4e, les pièces de réception et la cuisine. J'ai encore dans l'oreille le pas lourd de mon père descendant l'escalier plusieurs fois par jour pour venir nous voir, ouvrir les portes sans frapper et demander d'une voix tonitruante « Alors, quoi de neuf? Raconte !» J'entends le glissement des pantoufles de ma mère, mais ne distingue ni son corps ni sa présence. Je n'ai pas de photo où elle me tienne dans ses bras ou par la main. Je ne dis pas que cela ne s'est jamais produit. Je n'en ai aucune trace, ni en image, ni dans ma mémoire. De ma mère, jamais un baiser, dont elle exécrait jusqu'à l'idée même. Ce régime ne m'était pas réservé. Elle était, sous ce rapport, et sans doute sous ce rapport exclusivement d'un égalitarisme sans défaut, au point de tous nous tenir à distance d'un simple geste d'avertissement avec la main préventive du policier arrêtant la circulation, comme s'il y avait autour de son corps une ligne invisible à ne jamais franchir. Rarement un mot plus haut que l'autre, aucune colère spectaculaire. Rien, rien du tout. L'absence, le vide, pur, qui avait la dureté transparente d'un mur de cristal, lisse et sans aspérité. Une paroi impeccable, qui permettait de se voir mais jamais de se toucher. Avec les enfants, chérie, il faut être indifférent. C'est cela le secret. Indifférent, avait recommandé ma mère de sa voix douce à ma sœur, qui lui demandait un jour conseil à propos de l'éducation de sa fille aînée. Comme j'assistais à cette conversation, je lui avais fait remarquer qu'elle donnait ce conseil à sa fille, accessoirement en ma présence, et que cela éclairait d'une lumière singulière sa propre expérience de la maternité. Elle balaya ma remarque d'un mouvement d'impatience, l'air de dire « Vous êtes vraiment trop susceptible !» et sortit de la pièce. Le dernier mot, le dernier geste, elle y tenait beaucoup. Elle avait un visage d'apparence angélique, des cheveux châtain clair, de grands yeux très bleus et une bouche un peu tombante, aux lèvres pleines. De petite taille, elle était voûtée par l'habitude de lire et d'écrire sur son lit, toujours jonché de papier, le corps en équerre et les épaules courbées sur la feuille. Comment est-elle parvenue à écrire 5 livres dans cette position impossible avec un mari qui l'interrompait toutes les 5 minutes? Comment est venue à cette jeune fille de bonne famille, sans formation universitaire, l'idée d'écrire des livres d'histoire qui seront publiés dans une maison d'édition sérieuse et recensés par la critique? À l'époque où elle a commencé à faire des recherches, au début des années 1960, une femme ne pouvait pas travailler ni signer un contrat d'édition sans l'autorisation de son mari. Il faudra pour cela attendre la loi du 13 juillet 1965. Je lui ai souvent posé la question du pourquoi et du comment elle s'était lancée dans ses travaux. Elle était évasive, disait que ça l'intéressait, qu'elle n'allait pas rester là à ne rien faire. Je ne me souviens pas d'une seule conversation significative avec elle. Soit parce que les choses allaient sans dire et qu'il n'était pas nécessaire d'insister, soit parce que le sujet l'indisposait, voire les deux. Rien de ce qui n'allait pas dans son sens ne retenait son attention. Ce qu'elle aimait, c'était reconnaître sa pensée, son idéologie surtout. Mes questions, toujours trop nombreuses, passaient pour insolentes. Certaines l'étaient. Combien de fois ne m'a-t-elle pas intimé de me taire, rien qu'en me regardant avec une froideur sans appel? Son regard suppléait la parole et interrompait net l'échange à peine amorcé d'un œil impérieux, catégorique. Je n'acceptais aucun de ses foudroiements ni de ses ultimatums, que je jugeais déplacés, à la limite du ridicule. Je la relançais, je m'acharnais, j'enfonçais le clou. « Laure, tu vas toujours trop loin !» Je ne me suis jamais faite à son évitement systématique de tout dialogue, de tout sujet qui ne lui convenait pas. Il y avait notamment chez elle une surdité militante à tout ce qui touchait les hiérarchies et les privilèges, l'ordre symbolique et social. Les ouvriers et les employés appartenaient à une catégorie qui avait droit au mieux à son mépris ennuyé. « S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire un autre métier », me dit-elle un jour, comme sous le coup du bon sens. Nous étions nés, nous, du bon côté, celui du manche. Pas la peine d'ergoter. L'important, c'était de rester à sa place et de se tenir. Quant à la bourgeoisie, elle n'était vaguement acceptable que de loin, à condition de conserver ses distances. D'une roturière en passe d'intégrer la famille et qui ignorait les usages, ma mère laissa tomber un jour d'une lippe ennuyée ce commentaire qui la résume entière « Elle est immélangeable ». Très tôt, j'ai su d'intuition qu'il fallait que je parte. À 19 ans, je trouvais du travail dans une revue d'art et je quittais la maison, dont mon père me réclama les clés, histoire de me signifier mon congé définitif. Le soir de mon départ, il tournait comme un lion en cage, éructant, râlant, en proie à une forme d'exaspération mêlée de panique. Il n'avait jamais cru à mes projets, pourtant déclarés et réitérés d'indépendance. Je me souviens que ma mère rangeait sa salle de bain. Elle n'en est pas sortie pour me dire au revoir. Nos relations n'ont fait que se dégrader au cours des années qui ont suivi. Sa détestation des gauchistes et des féministes n'était surpassée que par sa haine de l'homosexualité qui confinait à la manie. Elle lui déformait la bouche. On la sentait prête à cracher par terre à l'évocation de ces gens qui ont les hormones à l'envers, comme elle disait. J'ai gardé le silence pendant des années et j'ai menti tant et plus, convaincue, à raison, que la révélation de mon secret provoquerait une rupture définitive des relations familiales. « Mais non, me rassuraient mes amis, tu verras, après un moment, ils s'y feront, ne t'inquiète pas, c'est partout pareil. » Je savais pourtant, je savais. Nous nous retrouvions souvent à la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, où nous travaillions chacune à nos livres respectifs. Un jour, je l'invitai dans un café du square Louvois. C'est le seul déjeuner en tête-à-tête que j'eus jamais avec elle. Je lui exposai les difficultés que j'avais à lui parler et la nécessité où j'étais d'arrêter de mentir et de lui dire que je vivais avec une femme. Je l'ai vue se décomposer. Elle était pâle. Pas un muscle de son visage ne tremblait, mais je sentais qu'un orage intérieur, épouvantable, sinistre, s'était levé. J'accomplissais l'inconcevable. Je brisais le code. Sa réponse à ce qui n'était pas une question a tenu en deux phrases, lâchées avec cette âpreté qu'elle assimilait à de la dignité. Tu incarnes à mes yeux l'échec de toute une éducation morale et spirituelle. Et, pour moi, tu es une fille perdue. Je l'ai vue pleurer pour la première fois. C'est cela surtout que ma famille m'a le plus reproché. Tu as fait pleurer ta mère en public, comme une domestique. Après plusieurs mois de tension où mon père s'est tenu en équilibre instable, refusant de me condamner ouvertement sans pour autant jamais me soutenir, j'ai écrit une longue lettre à ma mère pour lui expliquer ce que j'avais peut-être maladroitement exprimé in vivo. J'en ai perdu le brouillon, mais j'ai toujours sa réponse, qui est aussi la seule lettre qu'elle m'ait envoyée de sa vie. Ton choix ne suppose pas seulement un engagement entre deux personnes. Il résulte aussi de l'abandon d'un engagement spirituel et moral que j'ai voulu pour mes enfants. Je sais que tes engagements t'appartiennent, mais je refuse, comme mère, de les cautionner. Ta relation n'est pas assimilable à un lien familial. Nous avons cru comprendre, ton père et moi, que tu souhaiterais qu'elle le soit par nous. Nous voudrions être très clairs. Elle ne le sera en aucun cas et je te demande de ne plus y revenir. La mort de mon père en 1998, c'est là notre rupture définitive. Elle est morte 15 ans plus tard sans que je l'aie jamais revue, sans qu'elle ait jamais tenté de me contacter, ni par écrit, ni au téléphone, ni d'aucune autre manière. Pas un anniversaire, pas une fête n'échappa à cette règle d'airain.
De l'épopée familiale, je ne me suis jamais sentie la dépositaire. sans doute parce que j'étais une fille promise dès la naissance au mariage. Ce nom ne serait bientôt plus le mien, ni jamais ce patrimoine. Mais grâce à, ou à cause de ce décor, j'en ai hérité une fantasmagorie concrète qui m'a tôt persuadée que l'histoire ressortit d'abord à l'imagination. Avec le nom, il y avait le titre. À la maison, chaque repas était annoncé par « La princesse est servie ». Ma nurse ne parlait jamais autrement de mon père et de ma mère qu'en disant « le prince » ou « la princesse » ou de mon grand-père maternel qu'en disant « monsieur le duc ». Habitude qu'elle conserve aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Quant au courrier qui arrivait, il était toujours libellé au nom de mes parents précédés de leur titre. Ce qui valut un jour à ma mère des problèmes à la poste lorsqu'elle voulut retirer un paquet au nom de S.A., pour son Altesse, la princesse Napoléon Murat, car l'employé exigeait la preuve qu'elle était bien la gérante de la S.A. pour Société Anonyme, princesse Napoléon Murat. Le titre princier a cette particularité d'être le seul qui soit transmissible aux filles. C'est ce que dit mon état civil, aussi surprenant que cela puisse paraître sous la Ve République, près de 200 ans après l'abolition des privilèges. Lorsque je me suis inscrite en thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai dû fournir un acte de naissance. Cette perspective m'accablait, car j'étais obligée de délivrer un document qui ne manquait jamais d'occasionner des remarques goguenardes où était inscrit Laure Marie-Caroline, princesse Murat. Je me souviens du hoquet poliment réprimé de la maîtresse de conférence par qui j'avais dû faire transiter le document lorsqu'elle sortit le dossier de son enveloppe. La dernière fois que j'ai dû le produire, c'était chez le notaire en 2018. Levant les yeux au-dessus de ses lunettes, au milieu de la lecture de l'acte, celui-ci s'est interrompu pour me dire sans malice aucune « Princesse, c'est original comme prénom. » À quoi je répondis très naturellement « C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. » C'était la première fois que cette mention n'avait dans une instance officielle plus aucun sens. C'est ce type d'expérience aussi qui marque le temps. Je n'aurais plus à y être confrontée. En 2020, l'informatisation a mangé ma couronne. Alors même que j'ai quitté le foyer familial à l'âge de 19 ans, abandonnant d'un coup tout un monde d'habitudes, de rituels et d'appellations officielles, l'enracinement de certains réflexes continue de m'étonner. Il y a quelques années, de passage à Paris, je traversais le parc Monceau pour me rendre à un rendez-vous, quand j'entendis un homme dans mon dos lancer sur un ton impérieux « Princesse !» Je me suis retournée instantanément, sans réfléchir une seconde, pour savoir ce qu'il me voulait. Il rappelait sa chienne.
Chères auditrices et auditeurs, en poursuivant la lecture de ce livre intitulé « Proust, roman familial » de Laure Murat et couronné du prix Médicis Essai en 2023, vous aurez le plaisir de découvrir à la fois un monde à part qui obéit à des règles d'un autre temps, mais aussi une intelligente introduction à l'œuvre de Marcel Proust. Vous avez entendu les voix de Guylaine et Marie-Paul. Claude Michel a assuré le montage de l'émission. Les intermèdes musicaux étaient extraits du concerto pour piano numéro 7 de Jean-Sébastien Bach. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5 FM.
Podcast, émission, animation, c'est parti. Le 101.5 ouvre son antenne.
Vous souhaitez devenir animateur ou animatrice radio? C'est à votre tour de prendre le micro en main.
À partir de septembre 2025, matin et soir, partagez votre voix, vos idées et vos mots à tout Angers.
Vous êtes fan de reggae? Vous aimez parler des nouveautés du coin? Des douceurs angevines?
Ce qui vous tient à cœur nous intéresse. Alors allez-y, proposez votre propre émission de radio, lancez-vous dans l'animation radio.
En direct de votre radio angevine, c'est désormais possible en rejoignant Radio G.
Rendez-vous sur radio-g.fr pour remplir le formulaire d'inscription.
44 ans, ça se fête, et ça se fête avec vous.
Bon courage et à bientôt
sur le 101.5 FM.
Radio G, savourez nos différences.
Se cacher dans son lit.